faire quelque chose que je ne fais pas souvent, mais quand même, j'aime bien recommander de temps en temps de lire un bloc de texte. Hein, pas seulement trois versets, mais non, nous on lit des bonnes parts de la parole de Dieu. Mais ce matin, ah oui, nous allons lire, entendre Jean 14, 15 et 16. Oh, ouh là là! Non mais écoutez, c'est pas grave. Le temps n'est pas très beau. Alors cet après-midi, tranquillement, dans votre chambre haute, comme dans Jean 14, 15 et 16, vous allez lire d'une seule traite ces trois chapitres. Comme ça, vous avez une idée plus précise de l'ambiance qui régnait dans cette chambre haute. Et vous remettre 2000 ans dans ce moment solennel de Jésus avec ses 12, juste avant de partir à Gethsémané. Alors, je reconnais, hein, l'évangile de Jean, si vous me permettez l'expression, c'est du costaud. Hein. Non, mais je ne vous apprends rien, vous avez déjà tous lu une fois, Jean 14, Jean 15, Jean 16, mais vraiment, c'est du solide. Bon, alors, il y aura... Tout sera projeté, mais regardez le texte de ce matin. Comme ouverture de ce message, il y aura trois points ce matin. Comme ça, vous savez à peu près quand le culte se terminera, quoi, hein. Donc, premier point, la clairvoyance de Jésus sur ce moment qu'il vit. Deuxième point, le plus élaboré, jusqu'à 14 heures à peu près, 5 mots-clés pour nous accompagner dans cette semaine, dans nos réalités quotidiennes. Qu'est-ce que je vis, moi, 2000 ans après ces événements? Et le troisième point, 2 encouragements à notre disposition. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mais mettez aussi votre foi en moi, dit Jésus. Une autre traduction, ne soyez pas troublés, ne soyez pas inquiets, vous avez confiance en moi, vous m'avez suivi. Vous avez confiance en Dieu, mais mes amis, ayez aussi et encore confiance en moi en ce moment. Ouverture magistrale de ces discours d'adieu de Jésus. Ce sont les discours d'adieu de Jésus, son dernier message, car dans quelques heures, dans quelques moments, Judas est en train de monter vers Jésus pour l'arrêter avec une bande armée. Et c'est le temps de la passion du Christ qui commence. Nous sommes dans le discours ou les discours d'adieu de Jésus à ses disciples, 14, 15 et 16. Et dans Jean 17, c'est la grande prière du Christ. Frères et sœurs, on a entendu par certains chants certaines réalités, pas toujours faciles. On a parlé de stent ce matin. D'ailleurs, j'espère que je ne vais pas vous endormir, parce que c'est quand même conséquent. Et donc, l'heure est solennelle. Premièrement, donc, un environnement dramatique, la lucidité de Jésus ou la clairvoyance de Jésus. Rien ne surprend notre maître. Sur lui-même, je m'en vais. Cette fois, le Christ peut nous dire, dans cet ultime moment, dans cette chambre haute, je m'en vais. Je vais vers le Père. sachant que l'heure était arrivée ou était venue pour lui de passer de ce monde au Père. Et vous regardez Jean 13:1, vous connaissez la suite de ce verset ? Ah, premier petit test. Virgule, il mit le comble à son amour une fois encore et il lave les pieds de ses disciples. Hein? Mais écoutez bien cette traduction, cette tournure de phrase. Il mit une fois encore, mais le comble à son amour, lui qui les avait aimés depuis le début, Jean 13, Jean 14, 15 et 16. Je m'en vais. Et regardez ce mot-clé de la vie de Jésus, l'heure. Dès le début de l'évangile de Jean, il est question de cette heure. Femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Jean 2. Mais maintenant, l'heure s'approche, comme dans Luc 9, 51. Jésus, sachant qu'il devait être enlevé du monde, prit la résolution de monter à Jérusalem. Cette heure solennelle pour laquelle le Christ est descendu du ciel, s'est incarné, a pris notre nature, cette heure solennelle, l'heure de sa passion, est là, 3 ans de ministère. Jésus savait très bien, dès le début, pourquoi il était venu sur cette terre pour nous. Son heure est là. Jésus sait, nous dit le texte, que le diable est entré en Judas. Oui, c'est écrit. Jésus sait que l'un de vous me trahira. Oui, Jésus sait que Pierre le reniera. Aïe. Et Jésus sait, il nous le dit dans ses chapitres, le monde me déteste, il se réjouira. Jean 13, Jean 13, Jean 15, Jean 16. Notre Seigneur n'est pas pris par hasard. Cela ne le surprend pas. Il sait que parmi les 12, ces apôtres qu'il a choisis après une nuit de prière, l'un va le trahir, l'autre va le renier, et je n'ai pas encore tout dit. Ça viendra. Concernant ses disciples en plus, que trouvons-nous dans ces chapitres, frères et sœurs ? Ça fait peur, hein ? Vous allez gémir. Vous pleurerez. Vous vous lamenterez. Oh là ! Le monde vous détestera. Oui, Jésus leur dit cela. Dans la chambre haute, mes amis, on vous exclura des synagogues. Vous éprouvez maintenant de la tristesse et vous aurez des tribulations. Il y a 2000 ans, à ces apôtres et peut-être dans l'histoire de l'Église pendant 2000 ans, vous allez gémir. Vous pleurerez, le monde vous détestera, on vous exclura de ceci ou cela. Vous éprouvez peut-être maintenant de la tristesse pour, et bien sûr, vous aurez des tribulations, c'est le mot-clé qu'on peut traduire par épreuve, persécution, tribulation. Vous me laisserez seul. Imaginez, vous êtes dans la chambre haute avec Jésus et il dit à ses disciples, vous me laisserez seul. Alors, frères et sœurs, avec ce tableau un peu sombre quand même, ce matin, vous pour tenir bon et continuer la route, parce que nous sommes là ce matin, on a entendu certaines réalités, 5 parole forte de Jésus, car, bien sûr, vous aurez, vous serez, vous passerez par, mais, nous dit Jésus. Alors, nous avons ce matin, pour nous encourager dans notre vie quotidienne, dans notre vie d'église d'ailleurs, ce qui est vrai dans ma vie personnelle ou de couple, pour la communauté, 5 mots-clés que nous trouvons dans ces 3 chapitres, qui nous rejoignent ce matin, lesquels, mes amis ? La paix. Waouh ! Alors là, je n'ai même pas besoin de mettre le texte, vous le connaissez parfaitement, Jean 14, je vous écoute. Voilà, ben vous voyez, je vais arrêter alors. Je vous laisse la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Non, mais vous entendez ? Vous traverserez ces réalités. Vous serez broyés par le temps de la passion. Vous partirez en fuite. Vous ne tiendrez pas le coup. Mais je vous laisse la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. D'ailleurs, 36 000 traités en 2000 ans. Car, nous dit le texte, la parole de Dieu, ce thème, la paix, c'est une relation véritable avec le Dieu de Jésus-Christ et les uns avec les autres. Alors, je me permets quand même de citer, Christ est notre paix. Non mais, 2000 ans après, lire Éphésiens 2, hein, Christ a détruit la haine. Non, pas entre les Suisses et les Français, hein. Non, non, entre Juifs et non-Juifs. Il a tué la haine des païens contre les Juifs, des Juifs contre les païens, et il les a réunis en une seule famille. Chrétiens, païens, chrétiens, juifs, vous êtes maintenant ensemble dans la communauté. D'ailleurs, en parenthèse, petite diversion, allez à Rome, allez à Corinthe, allez à Éphèse, vous avez 3/4 de païens et 1/4 de juifs. Convertis, hein, on va essayer de vivre. Ah, je vais vous dire, ah mais moi je veux le sabbat. Ah non, les païens disent, tous les jours sont égaux. Ah, il ne faut pas boire de ceci. Ah non, non, on peut boire. C'était ça la réalité. Romains 14, 15. Relisez ces textes. Donc Christ est notre paix. Il a établi la paix. Nous sommes en paix avec Dieu, Romains 5, 1. Oh, regardez ce verset. Que la paix soit dans tes murs, Jérusalem. 3000 ans, mes amis. 3000 ans. Que la paix soit dans cette église. Parce que la paix, c'est très bien. J'ai la paix en Christ, oui. Mais vivre la paix les uns les autres. Ouh. C'est pour ça que Paul nous dit ce merveilleux texte. Recherchons tous les jours, puisqu'il y a des arrière-plans différents, recherchons ce qui contribue à la paix et qui nous permet de construire littéralement. Hein, c'est le verbe progresser dans la foi. Vous vous rendez compte ? Une année de vie d'église avec ce verset, devise, c'est extraordinaire. Oui, parce qu'il y avait des tensions à Rome. Et l'apôtre Paul nous dit vraiment, le verbe clé de Paul, c'est construire. Tous les dimanches, tout ce que nous faisons de la louange, de la présidence, c'est construire, c'est bâtir, comme on disait dans notre temps, édifier. Je vais m'édifier. Oui, mais c'est construire. Frères et sœurs, le fruit de l'esprit, c'est la paix. Il n'y a rien de plus beau dans une église quand on marche dans la paix et qu'on continue la route. Et celui qui veut aimer la vie, nous dit Pierre, qu'il fasse le bien et qu'il recherche la paix avec ténacité. Voilà, ça c'est Pierre, faire le bien, de belles œuvres, la paix. Ténacité. Deuxièmement, la joie. Ah non ! Dans ces chapitres sombres, Vous allez me quitter, vous allez me laisser seul. La joie. Voilà. Bon, là, un peu vu, là, dans le moment de louange, là. Ouais, ouais, c'est... les visages, ça va. Je vous ai parlé ainsi. Vous vous rendez compte? Pour que ma joie soit en vous. Et que votre joie soit parfaite. Alors, on a le droit de lever les bras, de manifester notre joie, mais intérieurement, dans cette relation avec le Dieu de Jésus-Christ, je vous laisse ma joie. Vous serez triste, mais votre tristesse sera changée en joie. Il va se passer quelque chose, mes amis. Je vous reverrai. Mais c'est merveilleux. Quand même, là, s'ils restent vraiment connectés, mais est-ce qu'ils l'ont entendu, ça? Déjà, pour la résurrection, ils n'y comprenaient pas grand-chose, ça se voit, mais je vous reverrai. Oui, mais Seigneur, tu reviendras quand? Je vous reverrai. Ah, la résurrection. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est la paix et c'est la joie. Le cantique, le psalmiste nous dit « Dieu, ma joie ». Oh là là, l'amour. Ouh. Écoutez, je ne sais pas si je l'ai noté. Ah oui, plus de 20 fois dans ces trois chapitres, aimer, amour. L'agapé, hein, on connaît ce mot. On a au moins un mot grec hein, qu'on connaît, agapé. C'est bon? Agape, agapé. Philéo, aimé, bref. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Alors ça, on connaît. Jean 13, 33 à 35, Jean 15, 9, 12. Au cœur de ce message, la paix, la joie, mais fondamentalement, l'amour que le Christ nous a montré, et chaque jour que vous voyez le Christ agir, vous voyez le Père qui aime. Moi, ce qui me frappe, qui m'émerveille dans les évangiles, c'est cette relation de Jésus et de son Père. Et le Père et le Fils fait ce que le Père voit, etc. Quelle relation, quelle communion d'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alors j'ai fait une liste de tous les uns les autres du Nouveau Testament. Alors voici la statistique. 20 à 25 fois, aimez-vous les uns les autres. Une fois, soyez en paix. Deux fois, pardonnez-vous les uns les autres. La statistique est claire, hein? Mes frères et sœurs, c'est la base de toute communauté. Nous sommes au bénéfice de l'amour de Dieu, de sa grâce, de sa bonté. Donc, bref, aimons-nous les uns les autres. Quatrièmement, le courage. Ah ben, ça, c'est clair que dans ces moments-là, alors là, les disciples, ça tremble. On se connaît, hein. Ces moments charnières de notre vie où on peut être un peu secoué. Et voici donc, vous aurez des détresses. Mais la lucidité de Jésus, ce n'est pas nous dire, tout ira bien, mes amis. Mais franchement, je suis là. Vous aurez des situations difficiles à rencontrer dans vos vies. Mais courage, j'ai vaincu le monde. Ce fameux mot « monde » qui revient tant de fois dans l'Évangile. Ah, le monde. Mais le monde, c'est quand même le monde que Dieu a aimé en nous donnant Jésus-Christ, hein, Jean 3, 16. Mais c'est aussi le monde hostile à Dieu. On le voit très bien, très clairement, dans un monde peut-être de plus en plus anti-chrétien. Mais quand même, j'ai vaincu le monde parce que je vais à la croix. Et Satan n'est pas le plus fort. Je suis venu pour détruire les œuvres du diable. j'ai vaincu, j'ai remporté la victoire à Golgotha. Alors, mes disciples, courage! Et d'ailleurs, regardez, pour le même mot, deux textes admirables dans les Actes. Tu courage, tu porteras mon nom à Rome. C'est le même mot. Non, mais attendez. L'apôtre Paul, depuis 2 ans, il est à Jérusalem et à Césarée. Il ne bouge pas. Le meilleur fondateur d'église, il est là. Dieu le laisse pendant 2 ans entre Félix, Agrippa. Il veut aller à Rome, ça ne marche pas. Eh mes amis, est-ce que vous voulez que tout soit réglé en 5 minutes? Mais l'apôtre Paul, il a attendu 2 ans avant de prendre le bateau. Puis en plus, le bateau, il s'est fracassé, quoi. Non, mais franchement, quelle idée on a de la vie. Mais mon ami, courage, tu iras à Rome, même si le bateau s'échoue à Malte. Tu iras. Courage, cette semaine, tu iras à Rome. Enfin, vous me comprenez, n'est-ce pas? En les voyant, après le naufrage, hein, Paul a rendu grâce et il a pris courage. Non mais, déjà, le bruit qu'il y avait avant le culte, ça veut dire qu'on est très content d'être là. Hein. Mais c'était impressionnant. D'ailleurs, partout où je vais, j'entends le bruit avant le culte. « Ah, salut, ah, comment vas-tu? Ah, c'est merveilleux. Ah. » Il vit, hein, on voit ce frère, il prit courage pour cette semaine. Chaque fois, le même mot, courage. Bon, cinquième et dernier mot-clé pour nous accompagner, la confiance. Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi. Alors ça, c'est le grand chapitre des inquiétudes et des soucis de la vie. Alors, on ne parle même plus, nous, du vêtement, de la nourriture et de la boisson. On laisse ça aux autres. Non, pas de problème. Mais on donne, il y a les paquets de Noël, ça c'est très bien. Mais qu'est-ce qui nous a troublés ces derniers temps? Quelles ont été les sources d'inquiétude, de soucis? Et pensez aux apôtres dans ce moment-là, l'ouverture de ces chapitres. Mes chers disciples, que votre cœur ne se trouble pas. Jésus, lui, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Ça, c'est un de mes textes préférés. Écoutez, c'est ça la vie chrétienne, en une phrase. Je continue à l'aimer sans le voir. Et je continue à croire en lui sans le voir encore jusqu'au jour où. La confiance en ce Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur, Golgotha et la résurrection. Bon, déjà, ces 5 mots-clés vont nous accompagner, mais les discours de Jésus, un appel à la confiance, un appel au courage, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. Conclusion. Pas de quoi être seul. Merci. C'est vrai. Il y a 2 choses fondamentales qui vont nous accompagner dès demain matin à 7 heures. Avant d'aller chez Lidl. Et vivre nos réalités. Jésus nous redit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens à vous. Est-ce que vous avez déjà remarqué dans ces 3 chapitres la place du Saint-Esprit? L'Esprit de vérité. Ce qu'on appelait, il n'y a encore pas très longtemps dans nos versions, le Consolateur. Bon, ça vient du latin consolamentum, mais en réalité, le défenseur, celui qui vient auprès de soi. auprès de nous pour nous aider. Tu n'es pas seul. On entend beaucoup de choses sur le Saint-Esprit, mais mon ami, tu as reçu l'Esprit à ta conversion et tu marches selon l'Esprit tous les jours. C'est pour ça que Paul nous dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. 30 personnes de l'Église libre de Reconvilliers dans le Lidl, des temples ambulants. Le Saint-Esprit les conduit à travers les rayons et voit les gens. Oh, mais qui êtes-vous? Mais vous avez un regard resplendissant. Que se passe-t-il? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Bon, bref, à la caisse. Bref, frères et sœurs, l'Esprit de vérité, qu'est-ce qu'il fait pour nous aujourd'hui, nous dit Jean 15, 16. Il nous enseigne la parole de Dieu. Encore récemment, voyez-vous, au fil des années, moi je me suis converti à l'âge de 11 ans, vous voyez, donc ça fait des décennies, je me souviens bientôt plus l'année, mais si, 4 août 1960, 11h du matin, à Port-Rentruy, conversion sous la tente de l'armée du salut. Quelque chose ça, hein, avec mes deux frères, au banc des pénitents. Mais c'était très bon, c'était clair et net. Et l'Esprit de Dieu m'apprend encore, la semaine passée, que dans Job 1, mon serviteur Job, toute son épreuve, et 42, mon serviteur Job a été fidèle. Vous vous rendez compte? Ma servante, ma chère sœur, mon cher frère, fidèle. L'Esprit de vérité nous console, nous encourage, sèche nos larmes. Il nous redit tout ce que Jésus a enseigné. Il nous revêt de sa force, de sa grâce, de son aide, de ses lumières, de ses clartés. L'Esprit est en vous, mais marchez, vivez selon l'Esprit, jour après jour. Je ne suis pas seul. Et dernier point, mon Père vous donnera tout ce que vous demanderez en mon nom. Ah, ça, on aime ce verbe. Demander. Trois fois dans ces messages d'adieu, nous avons cet extraordinaire verset qui est quelquefois un peu tordu dans tous les sens. Demander, demander, demander. Mais mes amis, qu'est-ce qu'on va demander demain matin à 7h pour vivre la semaine qui s'ouvre devant nous? En ton nom, Seigneur. Vous n'allez pas demander une Tesla ou bien? Non, mais peut-être, hein, dans certains. Je ne sais pas, une Rolex. Non, mais bref. Votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Il saura demander de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Vous savez quelle est la plus belle prière de l'Ancien Testament? Salomon. Imaginez quand même ce verset. Dieu s'approche de ce jeune roi, 20 ans. Mais c'est extraordinaire, ce verset. 1 roi 3. Mon cher Salomon, que veux-tu que je te donne? Vous entendez cette voix de Dieu, là, cet après-midi? Ma chère sœur, mon cher frère, que veux-tu que je te donne? Que demandes-tu? Seigneur, je te demande la sagesse, l'intelligence, la clairvoyance pour gouverner ce pays. Je suis jeune. Et même moi, maintenant retraité, j'ai besoin encore de sagesse, de discernement, car la sagesse est déjà la capacité de prendre les bonnes décisions dans sa vie. Entre autres. Ah, tu n'as pas voulu la richesse et autres, je te donnerai tout le reste. Ne vous trompez pas, hein, les amis. Parce qu'un jour, Jésus a dû dire, femme, tu ne sais pas ce que tu demandes. Pour ces deux fils-là, qui voulaient être à droite de Jésus et à gauche. Je ne vous ai jamais demandé ça. Dans l'éternité. Attention, frères et sœurs. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous laisse dans les épîtres à Colosse, à Éphèse, Thessalonique? Vous avez besoin de sagesse, de discernement. Il y en a qui rôdent, il y a des faux prophètes. On vous gargarise de toutes sortes de nouveautés dans le monde évangélique. Soyez sages, remplis de discernement. Conclusion, c'est terminé. Nous partons avec l'assurance que l'Esprit de Dieu nous accompagnera cette semaine. Et que nous pouvons demander à notre Dieu, tout en étant reconnaissant, avec action de grâce, ce dont nous avons vraiment besoin en ce moment. Alors, on va faire une petite révision. On y va pour les 5 mots-clés. Premièrement, c'est parfait. Deuxièmement, la joie. Troisièmement, parfait. Quatrièmement, courage. Et cinquièmement, confiance. Bon, on peut déjà aller un petit bout avec ça. Je reviens le 28 février, hein, en parenthèse. Non, mais on verra quoi. On verra si on fait la révision ou pas. Merci infiniment pour votre accueil et bon courage pour cette semaine, chacun dans nos réalités. Hein. Moi, c'est un peu mon mot, réalité. Ça fait 30 ans que je dis ce mot. Mais j'ai quand même vu pas mal de choses. Hein. Voilà. Que le Seigneur nous garde et nous accompagne. Merci beaucoup. Il n'y avait pas de montre, donc j'ai pris le temps qu'il fallait. C'est comme ça. Merci beaucoup.